France Inter.
La bande originale, soyez bienvenus avec Leïla Kabouboudali.
Bonjour.
Lisa d'être mais quoi?
Elle est incroyable.
Camille là-bas.
Camille,
incroyable.
Bonjour. Bonjour.
Oui, bonjour. Tanguy Passureau, Paul Delas,
bonjour.
Daniel Morin,
bonjour,
et
Camille.
Nos invités, Laure Calami et Léna, vraiment, mais
c'est
bravo. C'est génial.
Bande originale, Leïla Kadour et Nagui.
Wow.
Ça se passe au Théâtre Montparnasse avec l'événement, cette bande dessinée qui a été adaptée pour devenir un spectacle totalement dingue, musical, avec plein de messages qui passent. Soyez les bienvenus, en tout cas, Léna et Laure.
Merci.
Tout va bien ?
Mais super.
Bon, on va faire un petit tour de table pour savoir ce que les uns et les autres feraient en changeant de sexe, hein, puisque c'est l'un des temps forts, évidemment, de cette pièce, comédie musicale. Comment vous voulez la présenter, d'ailleurs ? C'est un spectacle musical ou une comédie musicale ou...
Spectacle musical, moi, je dis.
Ça vous va ?
Parce que ouais, ça joue aussi beaucoup.
Ça chante, ça joue.
Ça chante, ça joue, voilà.
Okay. Comédie spectaculaire, aussi, on peut dire.
Très bien.
Ouais.
Ça s'emballe.
Lisa Delmoitié, oui. Tu deviens un homme, qu'est-ce que tu fais ?
Je me bats pour le droit des femmes. Non, je me branle.
Ok, Camille Lava, où tu deviens un homme ?
Moi, je fais l'amour, madame.
Bah oui.
Oui, bon, ben, bah, pareil.
À un homme, à une femme ?
À une femme,
genre. À un homme.
Non, les deux, non ?
À tout.
On parlera de la pièce en deux secondes, Laure. Bruno Pecky,
Mais non, j'avais parlé de la pièce, vu que c'est un spectacle musical. Moi, je pense que je me mets à chanter en espérant qu'en ayant changé de corps, j'ai une meilleure voix.
Ah ouais.
D'accord. Leïla ?
Alors là, c'est une bonne question.
Tu deviens un homme.
Je pense que j'occupe l'espace.
Enfin, pardon, tu redeviens un homme.
Je reviens un homme. Bah, c'est pour ça, mais j'avoue que moi, je suis pas très loin, donc en fait, ça va pas me changer beaucoup.
Tu occupes l'espace.
J'occupe l'espace.
Ouais, Daniel,
le sol.
Je rentre dans les ors, je deviens carmélite.
Très bien. Paul Delas, tu deviens une femme. Qu'est-ce qui se passe?
Je voudrais quand même mettre un habit à friolant et me balader dans la rue pour voir l'effet d'un regard vulgaire et insistant.
La gêne du regard des hommes, c'est ça.
Oui, c'est ça. Pour comprendre.
Tanguy Passureau.
Si je deviens une femme, je continue à travailler pour voir ce que ça fait d'être moins payé.
Ok, donc tout ça est très...
Très engagé.
Ouais, très...
Tu ferais quoi, toi ?
Si j'étais une femme, je mettrais au monde un enfant. Je me demande ce que c'est que porter un bébé. Non, mais c'est vrai, parce que...
Oui, pour toi, mais pour nous, bon...
Je ne sais pas, mais...
T'es prêt à faire ça à l'humanité,
je pense que expliquer, expliquer par ce que l'on vit, ce que l'on ressent, tout ce que l'on entend, je pense que c'est inexplicable, et il faut le vivre.
T'as déjà été constipé.
Pardon.
Voilà. Oh, mince.
c'était toi, tout à l'heure, derrière la porte.
Toujours.
Ok. Léna, vous devenez un homme, que faites-vous?
Ben c'est drôle, en fait, on nous a posé la question à Laure et moi de façon des moments différents. On a répondu la même chose. Ben je ferai l'amour avec un homme et avec une femme pour voir la différence. Et mais c'est un peu, ça rejoint un peu ce que vous dites,
c'est-à-dire
c'est des choses organiques, des ressentis organiques qu'on connaît pas.
Mais sexuelles. Mais la sexuelle en l'occurrence.
Voilà. Ouais, organique
quoi. Ok. Laure aussi, vous avez répondu la même chose.
Oui, j'ai répondu la même chose.
Mais ça, c'est ce que vous faites déjà sur scène. Vous changez. Bah si, vous changez.
Oui, mais enfin, je ne sais pas ce que c'est que d'avoir un orgasme masculin.
Okay.
Et ça
Daniel
ça
non plus, hein, Daniel non plus.
Je sais pas. J'ai beaucoup lu, mais.
Il y a ça dans le film de Michel Blanc, Embrasser qui vous voudrez. Carole Bouquet dit j'aimerais bien savoir ce que c'est que d'avoir un orgasme masculin. Et Karine Viard fait bah moi j'aimerais bien savoir ce que c'est d'avoir un orgasme féminin. Voilà, ou sinon, j'avais répondu aussi j'irai négocier mon salaire pour voir.
Ah ouais, okay, très bien, donc on se rejoint là-dessus. Podom est en ce moment sur scène avec la musique de Ben Mazuet aussi, mais en musique, on va applaudir votre premier fan, c'est Old Delaf, fan de Laure Calami et de Léna Breuer.
Évidemment.
Fan de Laure Calami, Lorca c'est la sœur d'Alexandra et d'Audrey Lamy. Je crois qu'elle bosse maintenant pour des prods américaines. C'est elle qui faisait Antoinette dans le film Seven. Je suis fan de Léna Brébant. Comme Jeanne d'Arc adolescente, vous aidiez Orléans. Vous avez fait des mises en scène de malades. Enfin, je veux dire, vous avez même joué dans des EHPAD. Et vous êtes là ensemble pour la pièce Podom. C'est un habit magique pour devenir un homme. Bruno P qui rêverait d'en avoir un, je pense. Votre pièce est surtout un hommage aux Hauts-de-France. Oh. Cette pièce avec l'or qu'elle a mis, cette pièce n'est pas née d'aujourd'hui. Elle vient d'aussi loin que je viens, entre Beauvais et Saint-Quentin. C'est la région des gogoles, je plaisante, on peut plus lire ça. Et c'est dur pour les gogoles, c'est juste là-bas, on dit au pas. Podom, 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 ça veut dire pas d'amont Picardie. Podom, 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 édite plus en fond version pour les ch'tis. Podom, 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 podom,
mon cousin c'est mon frère, c'est Jackie.
Rappelons qu'on podane, c'est le pire dans l'horreur. Un père veut sa fille mineure. Je suis fan, mais si c'est l'or qu'a l'ami, est-ce que c'est Léna qui a la croûte aussi? Merci, vous êtes nos invités, on vous fera pas de mal. Bienvenue à vous,
la bande originale.
Pardon, pardon, pardon.
C'est fini, Mélo.
Mélodie Fontaine. Et Maxime Perrin, s'il vous plaît.
Maxime. Merci Maxime. Maxime qui est accompagné à l'accordéon
et Mélodie Fontaine.
Et Mélodie Fontaine qui est déjà partie
podum, podum.
Se cacher.
Se soigner. Surtout.
Trop tard.
Merci Oldelaf.
Et mes pattes. Alors, Maxime dont on parlait, ses disques sont sur toutes les plateformes. Et Mélodie, je rappelle, les lundis et mardis au Point Virgule à Paris.
Très bien. Et Tahiti, on n'en parle plus. Hein.
Ben bah non, mais là, je fais la promo des copains.
C'est gentil.
Et voilà, mais
le 20 février, de toute façon, Tahiti.
Alors, rappelons l'argument de la pièce, quand même. Parce qu'il faut parler de cette Bianca qui est sur le point de se marier, qui est une fille de bonne famille, c'est ça, vous m'arrêtez, Laure, bien sûr, et qui va devoir épouser un homme qu'elle ne connaît pas, et elle émet le souhait, et ça a l'air complètement délirant sur le moment de dire, mais si on pouvait rencontrer celui avec qui on va être unis, ça serait quand même un petit peu mieux.
Et ça fait rire ses copines, même, d'ailleurs.
Ah oui. Oui, bah oui, c'est tellement incongru, c'est tellement impensable à l'époque. Donc, ouais, voilà, effectivement.
C'est l'adaptation d'une bande dessinée. Léna, c'est vous qui êtes allée chercher la BD ou c'est la BD qui est venue vous chercher?
En fait, c'est Camille Thor de chez Acme qui m'a envoyé un jour un texto avec la photo de la BD que j'avais déjà lue. Parce que
Hubert Zanzim.
Voilà,
chez Glénat.
Chez Glénat. Et j'y avais pensé pour. Je voulais parler de la sexualité, en fait. Et puis finalement, il me dit pourquoi pas au théâtre. Mmh. Et on s'est dit, bah, et pourquoi pas au théâtre et pourquoi pas un spectacle musical. Ouais.
Mais parler voilà. de la sexualité, ouais. Le sujet est vaste. Là, le prisme, il est assez particulier quand même.
Oui, oui. Enfin, de base, je voulais parler de la sexualité, mais là, sur Podum, finalement, ça parle de tout à fait autre chose. C'est des rapports de homme-femme. C'est quoi être un homme? C'est quoi être une femme? Mmh. C'est quoi être un homosexuel dans la société?
En plus, ouais.
Et puis, c'est quoi la recherche de nos libertés, en fait? C'est quoi être libre et sans faire de mal à personne? Mmh. Et comment obtenir cette liberté? Et puis, voilà, la BD est géniale. Ouais. Et la BD pleine d'humour, et c'est ça qui m'a convaincue. Je me suis dit, bah, moi, c'est mon prisme, c'est de parler des choses importantes en se marrant.
Oui, sauf que la BD n'est pas, pardon, la BD n'est pas musicale.
Non.
Et là, vous avez musicalisé brillamment, d'ailleurs, en faisant chanter la troupe, avec un pianiste sur scène.
Ouais.
Là, ce sont des choix qui tordent le cou au produit initial.
Mais vous avez l'habitude de faire chanter les gens.
Bah oui.
Voilà, déjà, moi, si je pouvais, il y aurait de la musique tout le temps, partout. Dans ma vie, il y a de la musique tout le temps, partout. Et puis là, j'ai demandé à Ben Mazuet, parce que je trouve qu'il écrit tellement bien sur l'intime, sur le sentiment amoureux, sur la complexité de tout ça. Et je lui ai demandé d'écrire des chansons. Et c'était ma façon de faire des gros plans aussi. C'est-à-dire qu'au théâtre, nous, on est en plan large. Et puis, j'avais envie que ces personnages ils puissent avoir des gros plans, s'exprimer.
Leur moment.
Ouais. Leur moment. Et Laure, elle en a des incroyables. Ouais. Son personnage de Bianca ou de Lorenzo, parce qu'elle joue deux rôles. Ou la marraine, par exemple. C'était l'occasion de...
La marraine l'a fait.
Voilà, et dans la BD, c'est vrai que moi, j'ai développé autrement. J'ai développé le personnage différemment. Et ça me permettait de parler des femmes de plus de 50 ans, de c'est quoi ce regard qu'on porte sur ces femmes. Et que tout d'un coup, elle ait la parole, mais en chantant.
Ouais.
Parce que oui, il y a cette peau d'homme, justement, qui est le secret de famille, qui vous permet, c'est votre marraine qui le permet, qui voilà. La cache dans une espèce d'ailleurs de table à différentes entrées, qui permet...
Protéiforme.
Voilà, c'est ça, qui permet de se cacher rapidement de l'arrivée voilà. De n'importe qui. Ouais. Mais en enfilant ce costume et cette peau d'homme, de devenir, et c'est ça aussi la magie du théâtre, de devenir un homme aux yeux de tous les autres, c'est-à-dire personne ne se rend compte de la transformation, vous êtes un homme jusqu'à pouvoir faire l'amour à votre futur.
Tout à fait. Elle va jusqu'au bout de l'expérience. Non, non, mais elle.
Mais avant ça, elle doit apprendre à devenir un homme.
Voilà, elle doit
se comporter.
Voilà, c'est comme le dit sa marraine, ça va être une exploration de la gente masculine. Et en même temps, elle, en fait, c'est un peu un Orlando de Virginia Woolf oui. Inversé. Mmh. C'est-à-dire que d'un coup, elle a toutes ce carcan qu'on a quand on est, en plus, à l'époque de la Renaissance, quand on est une femme, des tas de choses qu'on doit respecter. Et elle, d'un coup, va explorer qu'est-ce que c'est que d'exploser tous ces codes.
Ouais, c'est des choses qu'on doit respecter, qu'on doit subir même.
Qu'on doit subir, bien sûr.
C'était pas la meilleure période pour les femmes, on va pas.
C'est pas la même. Ah oui, non, non, c'est. D'ailleurs, on appelle ça.
C'est
vrai, le Moyen-Âge était mieux. Non, non, mais la Renaissance, en fait, on appelle ça comme ça, mais c'est vrai que pour les femmes, c'était une catastrophe. C'était le début de. En plus de la chasse aux sorcières, etc.
Et chasse également aux homosexuels aussi.
Aux homosexuels.
Qui risquaient leur vie. C'était vraiment bien de la sûr. Chasse, quoi. Qui risquaient leur vie par des espèces de milices de la pensée.
Des catholiques extrémistes, ouais. enfin des catholiques de l'époque, hein. Ils étaient tous comme ça. Mais voilà, oui, c'était être anormal, être contre nature, être. Voilà, et pour une femme, affirmer ses désirs, sa sexualité, on n'y pensait même pas. C'est-à-dire, en fait, il y avait les deux, c'est-à-dire, c'était en train de changer. Mm. Parce qu'en même temps, ce qui est intéressant, c'est que le frère qui est lui
un dévot
total voit
qui
les
fait,
femmes
qui fait même peur d'ailleurs à ce
qui est génial il est super
ah ouais. Il est super
Vincent Vallée
très très drôle
ouais. et qui voit les femmes comme justement on les voyait à l'époque c'est-à-dire qu'elles ne maîtrisaient pas leurs pulsions sexuelles le regard inverse d'aujourd'hui voilà où c'est plutôt aux hommes qu'on prête ces pulsions incontrôlables apparemment mais voilà donc c'est assez intéressant de voir les visions différentes quoi. Mais voilà,
avez,
donc il fallait
vous
les
prenez un pied, c'est ça qui nous aussi en vous voyant mais on sent que vous régalez à tout jouer homme, femme, chanter, être dans à la fois danser, être à la fois dans des situations dramatiques, dans des situations avec un humour extrêmement corrosif. Je sais pas comment le qualifier.
La scène où elle découvre son corps d'homme,
oui.
Est quand même une scène d'anthologie quoi, je veux dire.
Bah ouais, c'est une joie totale. Après, on va pas trop dévoiler. Enfin bon, je sais pas.
Je sais pas, Léna, qu'est-ce que vous voulez en dire.
Bah moi, en fait, je voudrais juste en dire que cette scène, c'est la première scène que j'ai écrite quand j'ai écrit l'adaptation. Et j'ai, pour me donner du courage pour écrire cette scène, parce que je trouvais ça incroyable.
Il fallait du courage.
Bah parce qu'il fallait se dire, c'est quoi quand on se retrouve avec un corps d'homme. Alors évidemment, on va pas dévoiler la scène, mais la première chose quand même, c'est qu'on a un sexe.
Bah oui.
Voilà. Et tout d'un coup, voilà. Et donc j'ai écrit cette scène, et en fait, j'ai pensé à l'or
qui dépasse.
Ça dépasse.
Et justement, j'avais
pas pour
écrit...
tout le monde. Enfin, bon. On a dit qu'on
avait écrit qu'elle était affolée par ce gros verre. Elle dit à sa marraine, mais c'est quoi ce gros verre? Et en fait, pour écrire cette scène, j'ai pensé à l'or. Or, je ne savais pas du tout qu'elle jouerait dedans. C'est-à-dire, je m'étais juste dit, allez, pense à l'or, pense à sa folie.
Pardon, pourquoi?
À sa folie.
Excusez-moi, oui, je comprends très bien le rapport entre un gros verre.
Parce que j'avais besoin que ce soit. Moi, je voulais écrire une pièce burlesque, parce que là, on parle de choses sérieuses et tout, mais je voulais qu'on se marre. Et évidemment,
parce que le sujet était grave, justement, il fallait qu'on se marre.
Parce qu'évidemment, le sujet est extrait. Les sujets, d'ailleurs, sont graves, mais c'est une renaissance rêvée, c'est pas vrai, c'est pas un truc d'époque, c'est vraiment. C'est un conte, et donc c'est burlesque. Et du coup, j'avais besoin qu'on se marre. Et je sais pas, pour me donner du courage, je me suis dit, pense à l'or, comme on se connaît très bien. Et puis, c'est pas grave, c'est pas elle qui jouera, mais libère-toi en pensant à elle.
Qui est une copine depuis longtemps.
C'est tellement
dingue,
c'est elle qui le joue, c'est tellement merveilleux pour moi.
C'est un peu encore de l'enfant que j'étais. Tant que je sens couler dans mon corps mes premières années. Et tant que je peux, les paupières closes, tout attendre, tout recommencer. Tant que je peux, d'une courte pause, prendre ma vie, toute la changer.
Il y a un album qui va sortir, j'imagine.
Oui, on aimerait trop, tout le monde nous poser la question.
Bah oui, parce que ce sont des, entre guillemets, de vraies chansons. C'est pas des petites virgules musicales qui viennent dans un spectacle, quoi. Ce sont des vrais.
Moi, je trouve qu'il a écrit des tubes personnellement. Ah oui, je trouve qu'il a écrit des chansons magnifiques, Ben Mazué.
Oh, genre, je sais pas comment s'appelle celle où il y a
la statue.
La statue retournée où ils mettent les mains sur les.
Laisse-moi faire, ça s'appelle.
Celle-là.
Elle est magnifique, hein. Ouais.
Moi, j'y connais en musique, hein, si je dis. Celle-là.
Chantée par.
Moi, c'est le thème, c'est Coton-là, ce qui t'attend.
Podum, laisse-moi faire, c'est celle-ci.
Question de moment, de la couleur de ma bulle. Les jours bleus, je pique, jaune, je souris, noir, je tue.
Alors, c'est sûr que sans l'image, on peut moins comprendre.
C'est Régis Foyer qui
mais
est
c'est,
en...
c'est à voir, justement. Alors, le casting, parlons-en. Emmanuel Rivière, Valentin Roland, Samira Sedira, Clément Simounet, Aurore Stretch, Adrien Urso, Régis Vallée et Vincent Vanier, dont on parlait tout à l'heure. Tout ce beau monde réuni avec des chorégraphies de Leïla K, la musique de Ben Mazué, la mise en scène, adaptation de Léna Brébant, et tout ça porté par Laure Calamy. C'est au théâtre Montparnasse. On en parle jusqu'à midi et demi. Voici Lisa Delmoitier. Vous, Lisa, vous n'avez pas fait un spectacle comme ça sur le changement
non,
de sexe.
Non, non, moi, j'ai vraiment pas besoin d'une peau d'homme pour me faire passer pour un mec. Hein. Je vous jure, plusieurs fois dans ma vie, des garçons m'ont dit que j'avais une énergie trop masculine et je sais jamais quoi faire de cette info. Bon, si ce n'est enlever le doigt que j'ai dans leur cul, peut-être. Mais c'est pour prendre leur température. Moi, je suis dans le care. Je suis vraiment, mais bon. Ça dit que ça veut que je me déguise en infirmière, puis quand on passe au check-up, ça serre les fesses. Bon, ben. Pardon de connaître mes gestes techniques. Bon. Du coup, peau d'homme que vous mettez en scène, Léna Brébant, m'a parlé parce que c'est une pièce qui questionne la question de genre. Et moi, la question de genre me questionne parce que c'est une question que je me suis jamais posée. Et j'ai un jeu pour vous. Repassez cette chronique à la maison et prenez un shot chaque fois que je dis le mot question. J'ai dit à la maison, Daniel, branche ta tequila et enlève-moi celle du nombril de l'Olaf. Tu vas le tuer, c'est une limace.
Méchante personne.
Oui, moi, biologiquement, je suis née femme, mais je me suis jamais vraiment posé la question de savoir si je me sentais femme. Ce qui est une chance. Hein. Les gens qui s'interrogent sur leur genre, c'est pas une coquetterie, c'est parce que ça les pèse. Et moi, ça m'a jamais pesé. Mais quand je dis que je m'en fous du privilège, enfin, je m'en fous du genre, c'est un privilège. C'est comme quand un blanc te dit, tu sais, moi, je vois pas la couleur. Oui, bon, mais sans blague. Bref. Mais votre personnage, Laure Calamy, elle est confrontée à son statut de femme parce qu'on va la marier à un homme qu'elle ne connaît pas et madame exige de voir la marchandise. Chose rendue possible en enfilant une peau d'homme. Alors, les filles, comment on reconnaît une peau d'homme? C'est simple. C'est une peau qui s'est pas hydratée depuis la chute du mur de Berlin, mais qui vieillit mieux que la nôtre. Elle est pas belle, la vie. Je commence à croire qu'elle se fout de notre gueule, l'industrie du skincare. Ouais. Je serais pas étonnée d'apprendre que la Nivea, c'est juste de la chantilly à 25 balles le litre. C'est quand même fou de se dire que le mariage arrangé, c'était le lot des femmes avant, et c'est d'ailleurs encore le lot de femmes maintenant. Nuit de noces, première rencontre, tu te retrouves au lit à coucher avec un homme que tu ne connais pas. Putain. Qu'est-ce que j'en ai fait des mariages arrangés, moi? C'est une pièce qui parle de liberté, celle des femmes, mais pas seulement. C'est la liberté pour n'importe qui d'aimer librement. Moi, je pourrais pas supporter que ma famille choisisse un mec pour moi. Personne peut savoir qui est bon pour moi. À commencer par moi, d'ailleurs. Ne me laissez pas arranger mon propre mariage. Oh là là, je suis tellement nulle pour choisir un mec. Parfois, je suis en relation avec un gars que j'ai choisi et je me retrouve quand même à appeler Amnesty. Sauvez-moi, je suis dans un mariage arrangé avec un abruti. Arrangé par qui? Les talibans? Le patriarcat? Non, pire, la Lisa d'il y a 3 mois, celle qui ovulait. Donc, il me reste encore à me libérer de moi, mais merci Laure et Léna pour cette ode à la liberté. Et puis bon, moi, j'aime tous les clins d'œil à Podan, tellement je suis fan. Donc voilà, c'est bien ça. Mes parents m'ont appelé Delmoitié en hommage à Jacques Demy.
Oh yeah!
Joli.
Merci.
Elle est plus sur scène, c'est dommage.
Ouais, c'est dommage. Mais elle prépare.
Ouais, j'espère.
Elle travaille. Les mariages, justement, nous en parlerons avec Madame Joëlle Chevet, qui est historienne.
Ouais. Et surprise.
Qui vient nous parler de l'institution du mariage. Alors, il n'y a pas que le mariage. C'est la toile de fond. On est dans la Renaissance, en Italie. C'est la période où il y a ces mariages arrangés. C'est le point de départ, évidemment, de l'histoire, comme l'a dit Lisa Delmoitier, de ce mariage arranger ou imposer, c'est vraiment, on n'a pas le choix. Certaines, c'est assez drôle d'ailleurs de voir les copines raconter leur propre mariage au début en disant, moi si ça avait été, si ça n'avait pas été arrangé, ça ne serait pas du tout passé de la même manière. Ou heureusement que c'était arrangé.
J'ai une belle maison. où on aurait beaucoup trop de choix, on n'arriverait pas à se décider.
C'est ça. Donc évidemment, il y a beaucoup d'ironie et d'autodérision dans ce côté-là. Avec, ça nous arrange qu'il soit arrangé pour certaines, mais ça dérange pour ce qui est du personnage. Et ce secret de famille, point de départ de milliers d'histoires, mais qui fonctionne toujours extrêmement bien. Secret de famille, il y a une peau d'homme. Ce que vous avez gardé de la bande dessinée, c'est vraiment la structure totale de l'histoire. Et ce que vous avez rajouté, ce sont peut-être les sujets un peu plus sérieux, les combats que vous voulez mener sur la morale, la religion,
l'actualité.
Ouais, c'est ça. Ouais. Non, mais qui résonne toujours aujourd'hui,
oui,
ce que j'allais
voilà,
dire.
Voilà, exactement. Ouais, tout à fait. En fait, justement, ce que j'ai rajouté, c'est ce personnage de la marraine qui était présent dans la BD, mais que j'ai développé. Mmh. J'avais vraiment envie de faire un double portrait de femme, le portrait de femme de Bianca et le portrait de femme de cette femme plus âgée. Et puis aussi, évidemment, pour moi, ça résonne totalement avec ce qui se passe en ce moment à Kaboul, ce qui se passe en ce moment aux États-Unis, ce qui se passe en ce moment en France, où il y a, enfin moi,
où l'avortement est remis en cause.
Exactement.
Il y a tout un mouvement.
Où, je veux dire, il y a des pays où les homosexuels risquent la peine de mort.
Oui, toujours aujourd'hui.
Aujourd'hui, où il y a des jeunes en France qui sont foutus à la porte de chez eux parce que juste ils sont homosexuels. Mmh. Et moi, j'ai
et heureusement qu'il y a des associations comme Refuge qui les accueillent, qui s'en occupent. Ouais.
Et pour moi, c'est absolument insupportable. Sauf que j'aime bien vraiment qu'on se marre et j'espère que c'est une pièce où on sort avec la banane et on. Enfin, je veux dire, voilà, la preuve maximale, c'est que c'est Laure Calamy qui tient la. Non, mais je veux dire, plus la troupe et ils sont tous. Formidable et c'est des gens j'ai pris des gens qui ont ce sens du burlesque et du comique, mais les fonds sont le fond est
sérieux.
Est sérieux.
Ouais, il est même politique.
Il est politique, totalement, il est politique, mais drôle.
Et il est équilibré aussi, c'est-à-dire que je trouve que vous évitez de tomber, on pourrait imaginer un truc hyper première lecture, premier degré, l'émancipation unique de la femme, alors qu'on voit qu'en fait c'est la prise en compte de l'individu dans sa destinée, son désir.
Sa diversité, oui, voilà. Tout le monde est concerné par cette liberté.
Bien sûr, ouais. C'est même presque au-delà de la Renaissance, au-delà des femmes et des hommes, où, c'est de la recherche de soi-même, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'on arrive à devenir au plus proche de ce qu'on a envie d'être. Ouais. Sans les injonctions de la société.
C'est l'histoire d'une vie, quoi.
Ouais.
Au-delà de votre amitié pour Léna, Laure, qu'est-ce qui vous a attiré? Ça, on peut le comprendre quand on voit la manière dont vous vous épanouissez sur scène, mais qu'est-ce qui vous a inquiété? Les parties chantées, les parties dansées? Le fait que vous êtes pratiquement de toutes les scènes et qu'il faut une énergie débordante et j'imagine bien dormir pour être prête le lendemain. Enfin, voilà, qu'est-ce qui... Je parle de l'inquiétude, pas de l'envie, hein, de l'inquiétude.
Ouais, bien sûr. Vous avez raison. l'inquiétude, et je l'ai ressentie, c'était sur le chant. Enfin, d'avoir autant de chansons à porter.
Carrément.
Et surtout certaines, par exemple, Un homme fort, quand Bianca chante, elle est assez rapide et il faut mordre dedans, etc. Mm. Et c'est l'alternance de passer du jeu au chant, où d'un coup, ça demande une autre respiration, une autre énergie. Et la première fois qu'on a fait un bout à bout, j'ai vraiment eu des sueurs froides. Je me suis dit, mais est-ce que je vais y arriver? Et surtout, alors j'ai une prof de chant, on a une prof de chant qui s'occupe de nous, Camille Favrebulle, qui est absolument géniale. Et donc, il m'a appris que la voix, par exemple, c'est un sphincter. Je ne savais pas. Alors, je peux vous dire, ce premier
vous
bout à bout.
Vous voulez pas mettre le micro plutôt dans la bouche?
Voilà. Donc, j'étais constipée vocalement à ce premier bout à bout. C'était.
Non, mais symboliquement,
il y a un truc incontrôlable et que faut vraiment apprendre à, ça suffit pas de se dire il faut que je sois détendue, il faut vraiment travailler, quelque chose de qui était nouveau pour moi, donc j'espère que, enfin, ça va mieux là.
Mais est-ce que ça veut dire que ça nécessite pour cette période où vous êtes sur scène tous les soirs une hygiène de vie particulière,
un
entraînement?
C'est que même pour mes relâches je vais être obligée d'être vigilante. Non, mais je veux dire, oui, c'est sûr que voilà,
ça, elle m'a dit, vous êtes comme des athlètes. Enfin, là, toi, tout ce que tu as à faire, c'est vrai qu'avec tous les changements de costume, c'est une course-poursuite permanente.
C'est incroyable.
J'ai pas une seconde même pour aller pisser pendant le spectacle. Non, mais je veux dire, c'est vraiment non-stop. Et avec le chant, c'est vrai.
On passe du sphincter au Périnée à une vitesse.
Mais écoutez, voilà, on est sur
le corps.
L'organique à fond. Non, non, mais voilà, donc c'est. Oui, je suis obligée d'avoir une hygiène de vie. J'ai arrêté de fumer pour le spectacle.
Bravo.
Totalement.
Voilà, c'est une bonne raison.
Voilà.
Nous, on est dégoûtés. On s'est dit, on va faire un spectacle entre copines, on va s'éclater, on va aller boire des coups tous les soirs. Pas du tout. Non, pas du tout. On est au lit à 22h. Enfin bon, à 22h10, on a le masque sur le visage. Enfin bon, c'est.
N'en dites pas trop sur la vie privée. Gardez un peu de mystère.
C'est ça.
En tout cas, c'est une réussite. C'est au théâtre Montparnasse. Ouais. Je ne sais pas s'il y a déjà une date à laquelle vous devez vous arrêter pour X raisons. C'est prévu jusqu'à la fin juin.
Fin mai. Oui.
Parce que vous êtes en tournage en juin, vous êtes obligé de vous arrêter.
Oui, après j'ai des. Enfin voilà.
Des obligations.
Ouais,
très bien.
Retour de la clope en juin, quoi. Je l'ai dit haute voix.
théâtre Montparnasse, donc, avec sur scène Laure Calamy en futur marié et en musique. Les chansons de Ben Mazoué.
Pour la première fois. Voilà.
Et tout ça en live, faut préciser. Il y a un piano, il y a un pianiste sur scène qui joue. Il y a
Clément Simonet, ouais.
Il y a vos voix, oui, merci. Il y a vos voix qui sont là tous les soirs.
Oui. C'est pas du playback. Hein.
Et non, mais c'est important de le préciser parce que certaines comédies musicales ne se gênent pas pour le faire. C'est un spectacle vivant dans tous les sens du terme et intelligent en plus. On parlera tout à l'heure de la musique dans vos vies, de ce que vous écoutez, mais d'abord voici Camille Lavard.
En fait, à peine 10 jours après l'investiture de Donald Trump, on va recevoir ce matin la nouvelle attachée culturelle à l'ambassade des États-Unis en France. C'est Brittany McMurphy. Bonjour, Brittany.
Hi, bonjour, Leila.
Donald Trump a...
Cador.
Oui, donc Donald...
Leila Cador Boudadi. C'est comme ça qu'on prononce?
Oui, c'est tout à fait ça. Right. Vous parlez très bien français.
Merci, vous aussi.
Okay. Oui, mais... Donald Trump a nommé comme ambassadeur en France Charles Kushner, le père de son gendre, Jared Kushner. Est-ce que vous comprenez les accusations de népotisme?
Oh non, pas du tout.
Vous les réfutez donc complètement?
Oh non, non, je veux dire, qu'est-ce que c'est népotisme?
Alors c'est le fait de favoriser les membres de sa famille.
Oh oui, 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 exactement, c'est ça. You know, Donald, il est très généreux. D'ailleurs, vous connaissez son fille Tiffany?
Oui.
Il veut lui donner le Japon.
Ah, l'ambassadeur.
Non, 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 le pays. Il veut lui donner le pays du Japon. Elle aime beaucoup le riz.
Ok, d'accord. Alors, comme ça a été récemment beaucoup commenté, Donald Trump avait annoncé pendant sa campagne vouloir racheter le Groenland.
Oui, c'est très important pour les États-Unis.
Donald Trump parle même d'un enjeu géostratégique.
Oui, parce que c'est là qu'il vit le Père Noël.
C'est-à-dire le Père Noël.
Well, le Père Noël, you know, ce vieil homme, ce vieux monsieur islamiste qui importe les jouets chinois aux États-Unis sans payer les frais de douane. I mean, unacceptable.
Ok, donc ça n'a rien à voir avec les gisements de métaux, les nouvelles routes maritimes vers l'Asie. Ok, bon. Donc, comme je vous le disais, vous êtes la nouvelle attachée culturelle à l'ambassade des États-Unis. Moi, je dois vous avouer que j'ai eu du mal à trouver des informations sur votre parcours. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur vous?
Of course, bien sûr. Donc, moi, je m'appelle Brittany McMurphy. J'ai 1m75 et je suis Sagittaire.
En fait, je voulais dire sur votre expérience professionnelle.
Oui, je viens de dire.
D'accord. Bon, alors, on va revenir plutôt à la France. Quel est votre rapport à notre pays?
Oh oui, moi, j'adore la France. J'aime beaucoup la France. Vraiment, il est mon pays d'Europe préféré après l'Italie et Westeros.
D'accord. Donc, c'est un pays que vous connaissez bien.
Si je connais bien la France, laisse-moi rire. J'ai vu toutes les saisons de Emily in Paris. C'est pourquoi je peux dire, moi, je aime vraiment toute la France, depuis le Tour Eiffel jusqu'à l'avenue Montaigne.
Et vous avez déjà pu rencontrer Emmanuel Macron?
Non, mais je le connais bien aussi.
Ah oui?
Oui, of course. Il est le mari de Brigitte dans le saison 4.
Bien entendu. Mais je voulais dire, en tant qu'attaché culturel, est-ce que vous pensez qu'une collaboration est possible entre nos deux pays? Par exemple, je pense au Louvre, qui a récemment alerté les pouvoirs publics.
J'adore le Louvre.
Okay. Donc, un partenariat, ça serait peut-être envisageable.
Louvre. Oh my God, I love French language. Oh my God, so beautiful.
Yeah. Ok, ok. Donc, dernière question. Donald Trump avait déplacé l'ambassade d'Israël de Tel Aviv à Jérusalem. Envisage-t-il aussi de déplacer l'ambassade parisienne?
Oui, mais ne vous en faites pas. Nous restons à Paris, all right? Nous allons juste déménager sur l'autre côté de la Seine, côté rive gauche, you know, en face de le Trocadéro.
Oui, bah, c'est laquelle? La Tour Eiffel?
Oui.
Très bien, bah, merci beaucoup. Et bienvenue en France, Brittany.
Merci, vous aussi, Leila Kadou.
Camille Lavabre, elle est bien cadeau, Camille.
Ah ben moi je préfère l'ambassadrice.
Mais encore une fois, pas sur
mais
scène.
Non, ça te va tellement
c'est
bien.
Du gâchis.
Cette perruque à voir. Donc,
ah oui,
sur,
il faut voir la vidéo.
Sur la vidéo de Camille Lavabre. Joël Chevet, qui j'espère est resté avec nous malgré tout ce qui se passe dans l'émission depuis le début, nous parlera de l'histoire du mariage. Mais dans la musique et dans la vie, on a compris que vous aimiez ça. Les deux copines, Laure et Léna, puisqu'on va commencer par vous, Laure Calamy. Vous écoutiez par exemple en 93.
Je suis malheureuse.
Brigitte Fontaine. La plus rock de toutes, Brigitte Fontaine.
Ah ouais.
C'est une copine, vous l'avez vue sur scène, vous aimez ce titre?
Voilà, ce titre et puis
tout
beaucoup
ce qu'elle
de ses albums.
Hein.
Sa liberté, son décalage, sa poésie. Voilà, et son côté pas sympathique aussi, moi j'adore.
On est en 93, Laure. Vous quittez Orléans pour la capitale, la grande montée dans la capitale. Avec quelle idée sur Paris et sur vos rêves et vos aspirations à l'époque?
Alors moi c'était la pubiop, le truc horrible.
C'est vrai?
La pubiop?
Non, je fantasmais complètement sur... j'idéalisais complètement... je fantasmais sur Paris. Parce que pour moi c'était l'endroit où tous les possibles allaient avoir lieu, j'espérais. Donc je suis partie...
Vous installez?
Non, mais j'osais pas être actrice au départ, donc je me suis d'abord inscrite à la fac.
Ouais.
Parallèlement, j'ai commencé à prendre des cours à la Courneuve, au centre Jean Drummond. Et là, j'ai eu un prof qui était assez extraordinaire, qui s'appelait Jean Brassat, et qui m'a donné, qui m'a apporté beaucoup de choses sur le rapport au texte, sur plein de choses.
Quand vous dites je vous voyais pas actrice, c'est un sentiment, c'est pas fait pour moi, c'est trop difficile, ou il faut avoir des connexions et un réseau pour y arriver, ou c'était de la timidité?
C'était de la timidité, je crois, au départ. Enfin, j'osais pas me
projeter comme ça.
J'osais pas le faire, quoi, au départ. Oui. Tout simplement. Donc puis après, je me suis lancée petit à petit et par des rencontres, des amitiés. Ouais.
Mais vous connaissez depuis quand, toutes les deux?
Alors en fait, nous on s'est quand même rencontrés. On se connaissait au lycée d'Orléans, de la Source, Voltaire.
Lycée Voltaire.
Wow. Voilà.
Ouais.
Mais là, on est dans quelle décennie, là? Les années 80?
Bon, on va pas préciser.
Vous n'étiez pas 2000
copine. Et pas copine.
Pas copine.
Non. C'est-à-dire, elle était gothique,
curiste, et tout aussi, bien sûr.
Et moi, j'écoutais Nostalgie. Tout ça. Et du coup, moi, je pense que je passais pour une grosse ringarde. Et du coup,
c'est vrai, ça ou pas?
Oui. Non, mais pour être clair, il y avait la punk et la
petite fille sage. Et la bonne élève.
Voilà, c'est ça. Et ben de...
Moi, j'étais dans le cratère avec les tous les mecs un peu.
Mais c'est bien. Mais
en tout cas, fumer des clopes.
Ah, c'est ça. En 93, Léna, vraiment, écoutez. I've seen fire and I've seen rain. L'excellent James Taylor. I've seen sunny days that I thought would never end. Alors, si vous n'avez pas choisi You've Got a Friend, qui est l'une des plus connues avec Carly Simon de chansons, pourquoi celle-là en particulier?
Alors, celle-là en particulier parce que j'ai vécu un an aux États-Unis à cette époque-là. Après le bac, je suis partie un an dans une école pour étudier la comédie musicale. Et avec tous mes potes américains que je m'étais fait, on a été enregistrer cette chanson tous ensemble. Non. Et c'est, ouais, et j'ai toujours la cassette. Et c'est un truc, c'est trop beau parce que j'ai toute leur voix de tous ces jeunes gens de 17 ans. Et c'est trop beau. C'est eux qui m'ont fait connaître James Taylor. Et voilà, et c'est dans mon cœur.
Partir après le bac, comme ça, dans un pays où la langue n'est pas la même, où on n'est pas encore, j'imagine, vous ne parlez pas couramment anglais à ce moment-là.
Ah, pas du tout.
Pas du tout. Pour étudier la comédie musicale.
Ouais.
C'est gonflé de votre part, c'est gonflé de la part de vos parents peut-être. Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, aussi jeune, on part souvent faire un tour du monde, mais partir, ouais, s'installer...
Mais surtout qu'à l'époque, il n'y a pas Internet, du coup, et le téléphone coûte une blinde, donc on s'écrit. Je sais pas, c'était un rêve, je rêvais de parler anglais. Quand j'étais petite, j'étais fascinée par les gamins qui parlaient anglais. Ouais. Je trouvais qu'ils étaient trop chanceux, alors que c'était leur langue. Et du coup, je m'étais dit, c'est vrai. Et je m'étais dit, moi aussi, je veux ça.
Et jouer du piano,
bon, bah ça a raté. Bon.
Jamais trop tard.
Ouais, c'est ça. Voilà, bon, en tout cas, je suis partie là-bas et je sais pas, je l'ai fait, quoi. Et puis, et je me suis éclatée, c'est une des plus belles années de ma vie. Mmh. C'était aussi, on se réinvente quand on allait à l'étranger.
Mais qui visiblement vous sert encore aujourd'hui, en tout cas, de ce que vous avez vécu là-bas comme expérience et comme rencontre.
Ah ouais, complètement, parce que c'était aussi une autre façon de... Moi, je faisais du théâtre au Conservatoire d'Orléans à l'époque et tout, mais c'était une autre approche, la méthode américaine, qui n'est pas du tout la mienne.
Celle de quoi? De rien s'interdire, par exemple?
Bah, par exemple, on a joué le journal d'Anne Frank, et puis par exemple, pendant des jours, il ne fallait pas faire pipi, fallait s'entraîner à ne pas faire pipi. C'était absurde. Bon, moi, je trouvais ça absurde.
Pendant combien de jours?
Bah, non, mais par exemple, la journée, il fallait s'entraîner à ne pas faire pipi pour s'entraîner comme Anne Frank, elle faisait dans, dans son. Voilà.
Oui. Bon, acteur studio, c'est-à-dire se mettre dans la condition.
Ouais, c'est ça, c'est l'acteur studio.
C'est pour ça qu'elle ne peut pas sortir de scène et aller aux toilettes.
Ouais, c'est exactement ça. Alors, moi, c'est pas du tout je ne suis pas du tout là-dedans, du tout dans mon théâtre. Le psychologique ne m'intéresse pas du tout, mais ça m'a intéressé de l'apprendre.
Okay.
Et puis en plus, ils sont hyper forts, quoi. Le chant, la danse, c'est une autre approche, c'est joyeux. Il y a la méthode d'enseignement aussi de l'école. C'est très valorisant. Ils valorisent les gens au lieu de les casser. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose de très sympa. Et puis voilà, je trouve que c'est un bon mélange avec ce que nous, on a appris après au Conservatoire National, qui était très sérieux sur les textes.
Vous chantez, vous dansez aussi, pardon?
Moi, je chante, je danse bof, hein. Enfin, si l'idée c'est que de faire une démo, c'est pas possible.
En 2004, c'est l'avantage de la radio. En 2004, vous écoutiez Laure Calamy, les Turtles. Mais quelle meilleure chanson pour se mettre de bonne humeur. C'est pas
possible. Complètement. Et surtout, c'était la chanson du final du spectacle qu'on a fait ensemble, de l'adaptation de
Nicola Gutmann, Les Inséparables.
Les Inséparables. Voilà.
Donc c'est pour ça que vous l'avez choisi.
Principal.
Ouais. Voilà. Ouais.
Et on vous retrouve à la Comédie Française à cette époque-là, dans Le Menteur.
Oui.
Ouais. Mise en scène Jean-Louis Benoît.
Ah, okay.
Avec Denis Podalydès et Michel Viard.
Non, mais voilà, j'ai fait des rencontres formidables. Après, c'est pas le spectacle le plus épanouissant pour moi en tant qu'actrice. Parce que j'étais arrivée là-dessus un peu comme une ambulance, parce qu'en fait il y avait un désistement d'une actrice, je sais pas quoi. Bon, et c'était pas vraiment forcément pour moi le rôle, et ça a pas été toujours facile et tout, épanouissant. Mais d'ailleurs cette année-là, on a aussi fait avec Jean-François Auguste Happy People, où d'un coup c'était pour moi ça a été très épanouissant, parce que d'un coup en fait on avait une période tous ensemble où on était libre pendant un mois et on a répété mais vraiment dans le garage de la compagnie Les Lucioles, vraiment. Et on a construit ce spectacle à base d'improvisation, etc. Nous avons chopé la gale aussi là-bas.
C'est vrai.
Je vous jure.
Vous allez loin dans la direction d'acteur.
C'était Jean-François qui dirigeait.
Non, là c'était Jean-François et toi tu étais collaboratrice. C'était un peu les voilà, et donc on avait créé ce spectacle qu'on a repris après plusieurs fois, qui était c'était la première fois que c'était aussi de l'écriture plateau. Il y avait quelque chose d'excitant et de se trouver comme actrice aussi dans ce rapport-là, d'inventer soi-même notre théâtre, notre théâtre, et
ça change de la Comédie Française, quoi.
Voilà.
C'est autre chose.
Et Léna Brébranche change aussi de style. Elle devient un peu plus...
Ah oui. Y'a comme un goût de foulette, foulette chez les mots. Comme un goût de boulette, boulette sur les ondes. Oh ouais, on déconne, on va tout
boulette. La petite fille sale.
Je vous regarde, personne ne peut ne pas bouger la tête sur sa chaise.
Si, Daniel, non, je peux aller. Il a un torticolis. Et là, que se passe-t-il dans la vie de Léna Brébranche?
Eh bien, à ce moment-là, Léna, vous mettez en scène des pièces de Claude Ponty et puis une certaine Lorca Lamy.
Bah voilà, déjà. Bah, hein, voilà,
voilà. On... voilà.
Bah oui, effectivement, moi j'avais très envie de bosser avec Laure depuis tout le temps, toujours, et tout le temps d'ailleurs. Ouais. Mais et voilà, oui, non, Diams, parce que moi je suis fascinée par les gens qui écrivent des chansons et qui les chantent, les auteurs interprètes. Et je trouve que.
C'est de plus en plus le cas en ce moment dans la chanson française, ce qui n'était pas forcément le cas de ce que vous écoutiez sur Nostalgie à l'époque.
Exactement, voilà. mais tout d'un coup, moi j'ai très peu écouté de rap dans ma vie, mais cette femme, je l'ai trouvée d'un cul. Je trouvais que ses textes, ils étaient incroyables. Mmh. Et je la trouve, on l'entend, on a envie de le.
Vous vouliez être comédienne au début ou dès le début, vous voulez faire de la mise en scène?
Oui, moi, au départ, je voulais être imitatrice. je voulais faire de la mise en scène. Et puis, en même temps, j'avais l'impression que la place qui était proposée aux femmes, c'était actrice. Moi, je ne connaissais pas du tout de metteuse en scène, à part Ariane Mouchkine. Oui. Et du coup, je ne me suis pas du tout projetée. C'est pour ça que je trouve tellement important de dire « je suis metteuse en scène » et de dire aux jeunes femmes « vous pouvez être metteuse en scène ». Enfin, vous n'êtes pas obligée d'être actrice, en fait. Presque, c'est sympa, c'est de faire tout. Moi, je trouve ça génial de pouvoir écrire, jouer, mettre en scène. Mais...
Et l'imitation, vous imitiez qui, alors?
Ben, j'étais une grande spécialiste de Vanessa Paradis, dont j'étais fan.
Genre
De l'aime, je t'aime, trop de M, oh, jamais un seul M.
Vachement bien ouais. Ah, j'y étais, là. J'y étais.
J'avais des trucs moins bien.
Un mosquito, c'est un moustique qui a chaud.
Faut dire qu'il y a des grands textes,
ça. Qui n'écoutaient pas Nostalgie, vraiment.
Mosquito.
Lorca qu'elle a mis en 2015, vous écoutiez.
On était tous
les deux destinés. Non, mais moi aussi j'écoute de la
vérité. Qu'est-ce qui a souvent été utilisé dans les bandes originales de films? C'est pour ça que vous l'avez choisi?
Mais ouais, en fait, écoutez, moi je suis incapable de dire en telle année j'écoutais ça. Temporellement parlant, j'ai pas du tout ce don de me retrouver. Et en fait, 10% en fait, c'était avec Jeanne Herry, c'était elle qui avait réalisé cet épisode où on dansait ce slow avec Nicolas Maury, tous les deux, parce qu'on partait pas à Cannes et on se consolait sur ce morceau. Que je ne connaissais pas et que j'adore.
Bah, pourtant, c'est dans le Père Noël.
Dans le Père Noël,
oui. Père Noël, ouais.
Ah oui,
ouais,
c'est vrai.
C'est vrai.
Oui, n'importe quoi.
C'est dans le Père Noël.
Clavier l'ermite.
Dans le Père Noël. Oui, voilà, je retrouvais ce morceau.
Pour l'anecdote, et puis comme c'est un livre que le Splendide a signé et dont tout l'argent va à la Fondation pour la Recherche Médicale, dans le livre du Splendide où le Splendide se raconte, ils ont tourné la scène du slow, pas avec cette chanson-là, mais avec Vous les femmes de Julio Iglesias.
Et ah oui.
Comme ça coûtait trop cher, à la post-prod, ils ont mis Destiné à la place. Et c'est devenu, enfin pour moi, Destiné est devenu un succès avec Le Père Noël est une endure.
Oui, c'est vrai.
Carrément.
Il n'est pas dans Les Soudoués, je ne sais pas quoi.
C'est dans Les Soudoués, moi. Et là, chanté vraiment par Guy Marchand pour le coup.
Voilà. Avec le Love-O-Maître, là, tu sais, il fallait que ça connecte. Pardon.
Et la machine à claque.
Voilà,
la
machine.
Une musique de Vladimir Cosma.
Absolument. Et 2015, en effet, on a évoqué 10%. Votre personnage.
Attends, tu veux qu'on continue à anecdotes de cette chanson?
Une 196,
ce sont les mêmes accords. Ce sont les mêmes accords que on ira l'été indien, mais inversé.
C'est exactement les mêmes accords inversés.
Ouais.
C'est dégueulasse. Voilà.
C'est pour ça que c'est le chef.
Allez, c'est bien.
Et donc à cette époque-là, vous êtes Noémie, ce personnage dans 10%.
Oui.
Et vous dites que Noémie a changé votre vie, en tout cas, il vous a donné plein de latitude, plus de latitude.
Bah oui. Voilà. Non, mais ça a été une reconnaissance. Pardon.
Oui, c'est le temps.
Elle joue tout le soir au théâtre. C'est bien sûr, Noémie, ça a été extraordinaire parce qu'en plus, elle s'est épanouie au fil des saisons. Et j'ai eu une partitions de plus en plus passionnantes à jouer, avec voilà des partenaires que j'ai adorés. Bah voilà, c'était une aventure.
Un énorme carton public aussi.
Extraordinaire, qui a changé ma vie. Et bah oui.
La reconnaissance professionnelle arrive à ce moment-là pour Léna Brébant aussi.
Les hommes et tous les mêmes.
On comprend votre choix aussi avec les paroles de Stromae dans Tous les mêmes, mais surtout.
Vous êtes nommée au Molière de la comédienne dans un second rôle pour La maison d'à côté.
Eh ben oui, à mon grand étonnement, je savais.
C'est vrai ?
Encore aujourd'hui, j'ai l'impression.
Non, mais parce qu'en fait, je pensais pas que ça pouvait m'arriver, à vrai dire. Donc j'étais super surprise.
Rien qu'à nomination, était déjà une reconnaissance.
Ben oui, je me suis dit, ah bon, en fait, c'est hyper flatteur de dire, il y a des gens, ils ont mis votre nom sur un papier. Enfin, c'est
et
fou,
on n'est plus que 3 ou 4, quoi. C'est ça qui est fort.
C'est dingue. Après, j'adorais ce rôle. C'était... Puis il y avait une connexion avec ma vie incroyable. J'ai perdu mon père et mon père adoptif la même année. Et ça racontait l'histoire de. Enfin, en bref, il y avait une connexion avec ma vie qui était dingue. Et du coup, ça a été un moment très important pour plein de raisons. Voilà.
Podum, une soirée importante si vous y allez, en tout cas, qui va vous marquer avec Laure Calamy sur scène. Léna Brébant pour la mise en scène, cette histoire de mariage arrangé. C'est pour ça que nous avons demandé à Joël Chevet de venir nous parler. Bonjour madame, soyez la bienvenue.
Bonjour.
Historienne qui s'est intéressée à la place de la femme ou des femmes au cours de l'histoire.
Et amatrice de Diams, je vous ai vu bouger la tête.
Il y a une date de la naissance du mariage. Ça date de quand, le premier mariage?
Moi, je voudrais d'abord dire que j'ai vu la pièce et que, oui, enfin, je l'ai vue sur mon écran, mais je l'ai trouvée formidable et j'ai beaucoup ri. Mais en même temps, il y a vraiment tous les thèmes qui sont abordés d'une façon ou d'une autre de l'histoire du mariage et de l'évolution éventuellement de ce mariage par la suite. Alors, le début du mariage, on ne va pas remonter à la préhistoire, bien qu'il y ait tout un débat aujourd'hui.
Si c'est le cas, oui, pourquoi pas.
Il y a tout un débat sur, en effet, si vous voulez, l'évolution phylogénétique, pour employer des mots savants, à partir de notre descendance des grands singes. Et donc, les paléo-anthropologues ont étudié ce que nous devons aux grands singes.
Je parle du mariage, pas de la formation d'un couple.
Oui, mais je vais vous expliquer pourquoi je démarre là. C'est parce qu'en fait, la plupart des sociétés des grands singes sont des sociétés patriarcales et où donc la femelle est inférieure au mâle. Et il y a très peu de sociétés matriarcales en dehors des bonobos. Et nous tenons 90%. Voilà. Et nous tenons à 90% des chimpanzés, qui est vraiment une société violente et patriarcale.
Alors, quel était le but du mariage?
Donc,
mettre un contrat de
scellé,
entre guillemets.
C'est forcément un contrat qui va définir les relations entre l'homme et la femme pour fonder une famille. Il suffit de penser à l'étymologie du mot mariage, qui a une double étymologie. Il y a l'étymologie donc latine, bien sûr, qui part du mot maritus, mari, donc c'est bien le mari là qui est évoqué, et matrimonial, l'adjectif, qui lui vient du mot mater. Donc le mariage, il est bien fait pour qu'un homme fasse d'une femme une mère.
C'est ça, c'est-à-dire que donc se marier et pas avoir d'enfants, ce n'est pas répondre aux critères
du mariage.
Il
est fait.
D'accord.
Alors, il y a une raison tout à fait simple que les historiens, par contre, retiennent, c'est qu'en fait, au néolithique, la sédentarisation donc des tribus nomades, on va dire, fait qu'on accède à la propriété, les plus forts s'approprient un sol,
et c'est là
le transmettre.
D'accord, et c'est là où les mariages arrangés commencent à naître. Alors, justement parce qu'il y a un intérêt
économique. Pour le transmettre,
économique.
Il faut contrôler la sexualité des femmes.
D'accord. Donc,
parce qu'il n'y a qu'elles qui peuvent assurer que leur enfant est légitime et est bien de leur mari. Donc on les met sous cloche à ce moment-là avec des contrats, évidemment, qui peuvent être oraux dans l'Antiquité. On voit ça déjà à Babylone au deuxième millénaire avant Jésus-Christ. Et petit à petit, donc, se mettent en place des contrats soit oraux, et petit à petit écrits, qui vont définir en effet l'achat de la femme, le don de la femme. Elle est considérée comme un bien parmi d'autres, et donc ces contrats vont vraiment théoriser son infériorité de façon tout à fait écrite. Et puis le christianisme, après, va en remettre une couche.
Donc les religions en règle générale.
Voilà, bon, il y a des choses très différentes selon les cultures et les sociétés.
Si on n'arrive pas à dater le premier mariage, est-ce qu'on arrive à dater le premier divorce?
oui. Pour ce qui est de la France, oui. 20 septembre 1792, où on instaure en effet le divorce en France, et où il y a pour le coup une certaine égalité dans la demande de divorce entre hommes et femmes. Par contre, 1804, Code civil, où là, par contre, tout va changer pour les femmes qui doivent, vous connaissez l'article 213 du Code civil, la femme doit obéissance à son mari.
Ça se finit.
Et 1938.
Non mais
jusqu'en 1938,
ah, voilà, ça va bien. Oui, c'est ça, c'est
avec une inégalité là dans la rupture qu'on peut constater par exemple dans le cas d'adultère. Bon, l'adultère de la femme est condamné, c'est un impensé.
Bah, j'espère. Oui,
c'est un impensé. L'adultère de l'homme, c'est tout à fait différent.
Ah, bah, oui,
il ne faut pas que ça se passe au foyer conjugal.
Ah,
bah, voilà. Il ne faut pas souiller le foyer conjugal.
Il y a des fondamentaux.
La société du bordel,
bien sûr,
qui évidemment va compenser le fait que l'homme, lui, ne peut pas contrôler sa sexualité. Oui. Mais on trouve ça normal qu'il ne contrôle pas sa sexualité, puisque pour la procréation, l'orgasme est obligatoire pour l'homme. Alors que la femme, non, elle n'a pas besoin d'avoir du plaisir. Alors que l'homme, évidemment, il en a, puisque la procréation nécessite l'orgasme.
Merci. Donc, Joël, pour tout cet éclairage en très peu de minutes d'avoir parcouru l'histoire de la planète. Je reconnais. Votre dernier livre s'appelle L'Élysée au féminin, de la 2e à la 5e République, entre devoir, pouvoir et désespoir. C'est aux éditions du Rocher. Merci mille fois. Voici Bruno Pecky.
Ici, Daniel. Oh là là là, et il faut que je vous raconte. Depuis que je suis à Paris, je vis de gros chocs culturels à cause des différences entre la Suisse et la France. Alors, il y a des différences qui sont connues. Hein, par exemple, nous en Suisse, on dit 70, vous dites 70. Nous, on dit horaire de train, vous dites vague indication de fourchette de passage. Mais il y a d'autres différences que je ne connaissais pas. Par exemple, en Suisse, pour dire à tes souhaits, on peut dire santé. Voilà, désolé les Français, vous n'avez pas le monopole de la culture de l'alcoolisme. Et moi, je ne savais pas que santé, ça ne se disait pas ici. Mmh. Et il n'y a pas longtemps, je marchais dans Paris, il y a un passant qui a éternué. Donc moi, par réflexe de gentillesse, je lui ai dit santé. Il s'est arrêté, il a fait « Quoi santé? Je suis malade à crever, t'as cru on trinquait ensemble, fils de pute ?» Paris, la capitale de l'amour. Voilà, j'étais à moitié terrifié et à moitié admiratif de sa répartie. Mais au final, j'étais reconnaissant. Parce que grâce à lui, j'ai compris qu'en France, vous dites « à tes souhaits
».
Voilà, donc le lendemain, dans le métro, il y a un mec qui a éternué, j'ai dit « à tes souhaits ». Il m'a fait « Quoi mes souhaits? T'as cru t'étais le génie dans Aladdin, fils de pute ?» Bon, là, j'ai perdu espoir, quoi. Voilà. Mais au moins, maintenant, je suis fixé. Prochaine fois que quelqu'un éternue à côté de moi à Paris, je lui dirai fils de pute, il me dira merci, ça sera fini. Autre grosse différence que je connaissais pas non plus, les serrures. Voilà. En Suisse, quand tu oublies tes clés dans ton appart, ta porte a une mécanique qui fait qu'elle reste ouverte et tu risques de te faire voler par quelqu'un qui rentre chez toi. À Paris, c'est un peu différent. Quand tu oublies tes clés à l'intérieur, ta porte est fermée. Mais tu risques de te faire voler par un serrurier dépanneur. Voilà. Non, alors en soi, si je suis honnête, c'est faux ce que je viens de dire. En Suisse, même si tu laisses ta porte ouverte, tu risques pas de te faire voler. Mais je connaissais pas ce problème de serrure parisienne. Et il y a pas longtemps, j'ai oublié mes clés dans mon appart. Donc j'étais enfermé en dehors de chez moi. Et j'ai dû appeler un serrurier dépanneur. Voilà. Je connaissais même pas ce métier. Et j'ai découvert qu'un serrurier dépanneur, c'est une sorte de lubrifiant. En fait, tu rentres plus facilement grâce à lui, mais quand tu l'utilises, c'est que tu vas te faire baiser. Non, mais leurs tarifs sont tellement chers que je pense c'est pour ça qu'il y a autant de SDF à Paris. C'est juste des gens qui ont oublié leurs clés dans leur appart. Le gars est arrivé, il m'a dit « Je vais exécuter une manœuvre de percement ciblée sur la tétière pour accéder au pen dormant, puis je vais procéder à une découpe précise du pen, ce qui permettra de désenclencher le système de verrouillage. » Je dis « Putain, un serrurier qui parle de serrure, on dirait un sommelier qui parle de pinard, quoi. » Moi, dans les deux cas, je fais semblant de comprendre, donc j'acquiesce, et le gars me défonce la serrure. Naïvement, je demande si je vais pouvoir la réutiliser, il me dit « Non, parce qu'elle est défoncée. » Je lui dis oui, mais elle est défoncée à cause de vous. Il me dit oui, mais c'est à cause de vous, parce que vous avez oublié vos clés. Moi j'ai envie de lui dire non, c'est toi qui as commencé, je vais te dire à la maîtresse. Je me suis rappelé que j'étais un adulte. Donc je lui ai demandé ce qu'il allait faire maintenant. Il m'a répondu je vais retirer cette serrure et en installer une nouvelle. Ah bah là il sait faire se comprendre le salaud, hein, vraiment. Moi à ce moment-là je me suis senti obligé d'accepter. Il me dit combien ça va coûter. Et ok, petit tour de table comme ça, juste prix. Vous pensez que ça va coûter combien?
1000, 1700.
Ouais, j'en ai 1500. 2000 euros.
Non.
2000 pour moi c'était une année de naissance, pas le prix d'un oubli de clé, quoi. C'est plus qu'un mois de loyer pour entrer dans un endroit où je paye déjà le loyer. Après, c'est un peu de ma faute, c'est un peu de ma faute, parce que quand je lui ai demandé le prix, il m'a dit, bah, je sais pas, ça dépend, ça risque d'être cher. Moi, j'étais là, tant cher, genre 2000 balles. Et maintenant, je pense qu'à ce moment-là, il s'est dit, je pensais à 200, mais partons sur 2000. Ah, et moi, si je vais au souk à Marrakech, je finis avec des dettes sur 3 générations, tellement je suis nul en marchandage. Donc, bref, après ce hold-up, voilà, j'étais tellement mal que je suis retourné en Suisse pour me ressourcer quelques jours auprès de mes proches et manger gratuitement chez mes parents. Et quant à mon serrurier, voilà, si je le croise et qu'il éternue, je sais ce que je lui dirai. Et ce sera ni santé ni à tes souhaits.
Merci.
sur scène ce soir et demain à Lausanne, au pavillon Naftul, en hommage, un spectacle hommage à Pierre Naftul.
Podum au Théâtre Montparnasse, on en parle jusqu'à midi et demi avec Laure Calamy, Elena Brébant et avec toi, Tanguy Castureau. De quoi allons-nous parler?
Je parlais du musée du Louvre, Brittany, on a parlé tout à l'heure, cette américaine qui nous a quitté. Il y a trop de monde, trop de visiteurs, ça abîme les lieux. Je pense qu'il faut le fermer et mettre à la place une boutique de CBD, ça marche plus, sera plus calme.
La bande originale. Bonjour. Avec Lisa Belmoitier, Camille Lavabre, Bruno Pecky.
Bonjour
toi. Tanguy Pastureau, Daniel Morin.
Coucou Oldelap.
Tout ce beau monde pour accueillir Laure Calamy et Elena
Brébant. Oui. France, la bande originale, Leïla Kaddour et Nagui.
Je crois. Podum au Théâtre Montparnasse.
Pour la première fois, je dis voilà.
Des chansons, des situations drôles et d'autres dramatiques, mais c'est vrai que c'est souvent à partir d'une situation dramatique qu'on peut faire naître de l'humour et faire passer des messages, notamment autour de la religion, de la morale, de la tolérance, de la liberté, et c'est valable pour tous les sexes. Encore une fois, il y a un côté très féministe au début sur les mariages arrangés, mais ensuite ça s'ouvre, j'ai envie de dire, à l'humain en général. C'était ce que vous vouliez.
Complètement, ouais. J'ai vraiment envie que ce soit une ode à la liberté. Je suis contente que les gens, là, à la fin, on a de la chance pour l'instant, les gens vraiment sont hyper réceptifs.
Comprennent ce que vous voulez dire. Oui. Non, mais c'est toujours ça aussi, c'est comment ça va être reçu.
Exactement.
Et j'imagine que.
C'est... Extrêmement bien, on sent que les gens vraiment exultent, quoi.
On en a besoin, en fait.
Et qu'ils disent tous, ça fait un tel bien d'entendre ça. Enfin, je sais pas, c'est un encouragement aussi à se battre joyeusement.
Exactement.
Il y en a un qui prend cher, parce que là, on se moque carrément de lui, c'est le curé, quoi, c'est le frère. C'est joué par Vincent Vanney. On est d'accord, lui c'est...
Bah, bien sûr, après...
il est tellement risible.
Ouais, il est hyper risible et en même temps, il est génial parce qu'il fait, il est flippant, c'est ça. Mais le message, c'était aussi de dire, même quand quelqu'un fait très peur et qu'il a beaucoup de pouvoir, il y a moyen de le destituer et on peut se foutre de sa gueule déjà.
Non, puis c'est drôle quand son prêche, ça va de plus en plus loin et que ceux qui l'écoutent au début sont totalement des dévots et puis en bref, ça va peut-être un peu trop loin, monsieur le curé. On va pas spoiler le sujet, mais la manière dont ça se passe. Mais c'est drôle, c'est intelligent, c'est épuisant, j'imagine, pour vous, Laure Calamy, de courir, de chanter, de se déguiser, de revenir, d'être présente pratiquement de toutes les séquences.
Ouais, c'est épuisant mais exaltant aussi parce que il se passe des choses incroyables avec le public, quoi. C'est génial et entre nous on porte cette histoire. Et
qu'est-ce que vous apportez de vous? Qu'est-ce que au-delà de votre complicité, de votre amitié depuis quelques années, je veux pas insister sur le nombre des années. Qu'est-ce que vous pouvez apporter, suggérer à Léna qui a l'air de bien avoir en tête tout ce qu'elle veut en termes de chorégraphie, de lumière, de son et de mise en scène, et qui est déjà totalement dingue dans ce qu'elle fait comme travail, et elle rencontre le succès. Est-ce qu'on arrive en se disant, je vais forcément l'écouter, je vais rien dire et je vais rien proposer, ou au contraire
non. Le tyran d'un coup. Non, pas du tout. Non, mais c'est une collaboration. Je veux dire, évidemment qu'on s'empare des choses ensemble et que, de toute façon, même déjà dans son adaptation, où je savais pas encore que je le ferais, que je pourrais le faire ou pas, enfin, etc. On s'est parlé de cette bande dessinée, de son adaptation, etc. Puis après, concrètement au jeu, pour moi, c'est le principe d'une actrice, d'un acteur. On amène son imaginaire, ses propositions.
Oui, mais on est malléable. Rêves. On est au service du metteur en scène. Mettre en scène, oui.
Ouais, mais ça circule. Je pense qu'il y a des idées qui naissent aussi du plateau avec les acteurs et qui influent la mise en scène et inversement. Enfin, je veux dire, ça circule ensemble. Enfin,
Est-ce que le spectacle évolue entre entre les premières lectures que vous avez faites et comme c'est un spectacle vivant, ça veut dire aussi qui évolue.
Surtout que moi, j'écris une première adaptation et puis après, une fois que je sais qui joue, je réécris en fonction de pour en rêvant sur les gens. Et après,
sur
une
la
fois
musique,
que...
la musique de la voix d'un acteur,
c'est ça,
sur son physique.
Énergie. Alors, carrément, j'avais écrit même sans savoir que ça serait elle,
ouais,
en pensant à elle.
Déjà elle. Ouais.
Mais après, une fois que j'ai su que c'était elle, j'ai réécrit des choses en pensant à elle. Et puis après, comme j'avais fait tout le cast, pareil. Et puis après, une fois qu'on répète, les acteurs, ils sont, moi, j'adore m'emparer de leurs propositions. J'adore, même parfois, ils font un truc pour déconner. Et je dis, mais attends, c'est génial. On le garde. Enfin, c'est super. Et c'est ça qui construit, c'est aussi l'histoire des répétitions qui construisent un spectacle. Et là, derrière Laure qui fait un... Enfin, en plus, bon, voilà, la vie, c'est magistral ce qu'elle fait, parce qu'en fait, en vrai, des fois, elle a à peu près une minute, pour, ou même moins, pour changer de sexe, c'est-à-dire pour passer de femme à homme, et enchaîner sur une énorme chanson ou une énorme scène de jeu. Et mais derrière, il y a une troupe incroyable d'acteurs qui font pareil, c'est-à-dire qui passent d'un rôle à l'autre en quelques secondes, et qui sont brillants.
Oui, je veux juste rappeler quand même le pitch, entre guillemets, de la pièce, pour ceux qui prennent l'émission en cours de route et qui viennent d'entendre que Laure Calamy change de sexe en quelques secondes.
C'est vrai, ça peut être bizarre.
Il cherche l'adresse de la clinique, ouais.
Voilà. Ou l'adresse de la soirée.
Oui.
Ça s'appelle Podium. C'est l'adaptation de la bande dessinée signée Hubert et Zanzim, du même titre, avec donc l'idée de se retrouver au moment de la Renaissance en Italie, et cette femme qui est promise à un mariage, mais elle n'a pas connu l'amour, elle ne connaît pas son homme, elle aimerait bien quand même faire connaissance avant de se marier, ce qui fait glousser et rire ses copines qui, au contraire, pour certaines en tout cas, sont ravies d'avoir la dot et la fortune de l'homme marié. Pour d'autres, si on ne m'avait pas imposé, jamais je l'aurais choisi. Et au milieu de ça, sa marraine lui propose, c'est révélateur, sa marraine lui propose un secret de famille, c'est-à-dire qu'il y a dans un tiroir caché, dans une table cachée, une véritable peau dans laquelle elle peut se déguiser, enfiler cette peau dans tous les sens du terme, pour devenir un homme et rencontrer l'amour. Sauf que elle va tester l'amour de son futur, et elle va comprendre que finalement, lui aussi, il est assez ouvert.
Oui, et lui assez secret. Et,
voilà. Et ça chante, et ça chante, et ça joue. Ça s'appelle « Je voulais qu'il comprenne ». Et il y a beaucoup d'émotions aussi. On parle d'humour, on parle d'engagement, on parle de valeurs, mais il y a aussi des moments un peu...
Ouais, c'est Aurore Streich qui chante là. C'est Barbara Pravi qui a écrit cette chanson-là.
Et celle-ci...
C'est une question de moment.
Ça, c'est belle.
Ben Mazué.
Ouais.
De la couleur de ma bulle. Les jours bleus, je pique. Jaune, je souris. Noir, je tue. Rouge, j'aime plus. Du récit que tu portes chaque jour, car quand t'arrives en souriant le soir devant ma porte, je saurai si tu m'emportes juste avec un regard, juste avec un regard. Le mieux c'est ça quand je sens que toi t'es brûlant, quand je sens que toi tu veux moi, quand on a en fait.
Depuis le 23 janvier.
Juste dit, c'est Régis Vallée et Valentin Roland qui chantent. Et Valentin Roland qui joue l'amoureux
Giovanni,
l'amoureux homosexuel.
Donc. Oui, parce qu'il faut dire aussi que beaucoup de personnages jouent plusieurs rôles aussi, d'où les changements derrière de costume, voire de sexe. Voici Tanguy, passe sur.
Ouais, Tanguy. Hier, j'étais au musée Rodin, je regardais le penseur en me disant que moi, j'avais toujours réfléchi à billets, mais que si j'étais gaulé comme la statue, je ferais tout à poil. Si je fais des chroniques, c'est par défaut. On en est tous là dans cette émission, finalement. Mais si j'avais un corps de rêve, je me déshabillerais, je dirais pas un mot. C'est pour ça que je suis toujours étonné quand on soit Lisa Razou et que vous vous mettez à lui parler. Je me dis, mais quel gâchis. S'il est juste assis, qu'il se tait, qu'on le regarde tous en silence, en se masturbant, c'est suffisant. Vous dites, ok, mais il reviendrait plus. Et c'est là qu'on voit que vous connaissez mal les gens. Je débriefe souvent en sortie d'émission avec les invités, 80% me disent trop de chroniqueurs, les questions culture de Leïla trop pointues, celles de Nagui techniquement sont pas des questions mais des exposés. Il y en a une qui a été comptée en tant que conférence TEDx. Bon, la prochaine fois, ok, si je suis nu et que vous vous masturbez. C'était lundi, j'ai répondu, bah dis donc monsieur de Grotte. Il m'a dit, oh ça va, 30 ans de travail sur les mots, je suis aussi un corps. Ça a été l'occasion de tester la mini lacrymo au poivre que j'ai toujours dans ma poche. J'étais au musée Rodin devant le penseur avec l'ami qui m'avait invité à y aller avec lui, Gilles, président de la Fédération de Naturisme des Hauts-de-France. France. Il n'a donc pratiqué qu'une fois en 16 ans, la journée à 23 degrés sans vent, que sur place on avait appelé le miracle. J'avais appelé aussi Daniel Morin, mon BFF, pour qu'il vienne, mais il déteste les naturistes, par jalousie, parce qu'à cause de sa pilosité excessive, apparu en 1984 à la suite de sa participation au JO de Los Angeles en tant que gymnaste bulgare, bon ben, on dirait jamais vraiment qu'il est nu, alors qu'il l'est. Ce compliment qu'on lui a tous fait hier sur son blouson gris en laine, oui. Et ben c'était inadapté, c'était son tort. Et là, une alerte info tombe. Je lis, Emmanuel Macron est en visite au Louvre. Je dis à Gilles qui regardait le penseur, parce qu'en tant que naturiste, il n'aime que les statues nues. Lui, c'est l'inverse, c'est quand il y a des habits hein, que ça l'excite. Une fois, je l'ai surpris devant les danseuses d'Edgar Degas en train de dire « Oh, les cochons !» Je dis à Gilles, c'est pas vrai, je suis dégoûté, on n'est jamais dans le bon musée. Jamais dans The Place to Be. Je regarde autour de moi, pas une star. Pas même une TikTokeuse chinoise ou un ministre du gouvernement. Enfin, des gens qu'on connaît pas, quoi. Et là, je vois en live Macron au Louvre, sur une estrade devant la Joconde. C'est derrière lui, il a donc quelqu'un qui sourit en permanence, comme Jean-Pierre Foucault lors des soirées. Avec ses mots écrits sur le mur, Nouvelle Renaissance. Il avait aussi appelé son parti Renaissance. Ouais. Macron, il adore redémarrer de zéro. Je pense que c'est un bébé à la maternité qui est reparti dans l'utérus de sa mère en disant « Ok, on l'a refait ». Pourquoi Macron était-il au Louvre hier? Parce qu'il n'est plus aux commandes et qu'il s'ennuie comme un académicien devant la Starac? Oui, mais pas seulement. Il était au Louvre parce que le musée est vétuste. Ça fuit, ça craque, c'est à l'image du pays. J'en discutais hier à Europe 1, où je fais actuellement des essais. Forcément, avant, la France, il y avait l'Algérie, le Togo, l'Indochine. J'ai dit le groupe, ils m'ont dit la région, Madagascar. J'ai dit le film, ils m'ont dit l'île. Bon. Et là, il reste quoi? Ce petit hexagone rabougri, ça ressemble à un sexe. Quand on sort de la piscine, on est endettés comme des gueux. Les Qataris et les Chinois nous rachètent à la découpe. On a quatre pauvres start-up étouffées par les charges sociales. Et le seul mec qui réussit dans les cryptos chez nous, il se fait kidnapper. On lui coupe un doigt. Il peut plus faire le signe de Joule, il fait Yule. Tu veux faire quoi? Non, mais tu veux faire quoi? Moi, je trouve qu'il est temps de s'adapter à la situation du pays. On ne peut plus assumer le Louvre. Macron a promis une salle spéciale pour la Joconde, une nouvelle entrée. 10 millions d'euros, a-t-il dit. Pas pour les travaux, non. On n'est pas sur la villa de Pascal Obispo. Là, avec 10 millions, tu montes 14 étages tout en pain avec au sommet un héliport en aiguille, non. 10 millions au Louvre, c'est juste pour les études préalables aux travaux. Après, il y a les travaux. C'est-à-dire qu'on est tous là à vivre comme si on était Dubaï, alors qu'on va se taper la même croissance que la dernière année de l'Empire byzantin qui a disparu en 1453. Alors attention, ils ont un plan, nos champions du monde de la tirelire. Rachida Dati veut faire payer plus cher l'entrée. Je pense que ça va passer à 140 euros pour les enfants. Le double pour les adultes. Un fœtus dans le ventre de sa mère, ce sera 20 euros. Si papy a des poux dans le pubis, tarif de groupe. Jack Lang aussi a réagi. Il a salué les annonces de rénovation et a fustigé, je le cite, l'épice vinaigre qui évoque le coût des travaux. Et forcément, lui, il a passé sa vie à être payé aux frais de l'État. Donc il a l'habitude, je suis sûr qu'il sait même pas qu'il y a 20 ans, on est passé à l'euro. C'est lunaire. Cette tête vit au-dessus de nous, dans la stratosphère, c'est une comète. Alors vous me connaissez, je suis un esthète. Un esthète de con. Oh, de là, faut encore ajouter une blague à ma chérie. Un jeu de mots. Oh, mais les gens disent depuis septembre que votre niveau baisse. Bah oui, forcément. Bon, bref, les arts, la peinture, les antiquités, j'adore, j'adore. Et je suis pas le seul. Le Louvre, c'est 9 millions de visiteurs en 2024. C'est en partie pour ça que ça craque. Il y a trop de monde. Regardez le siège du Parti Socialiste. Il est nickel, il n'y a pas les cas de peinture. Mais c'est la foule qui détériore. Et après travaux, Macron veut qu'il y en ait 12 millions. Ce qui fait que ça sera 9, mais que ça va s'user direct. Et il faudra à nouveau tour faire, c'est un cercle vicieux, comme disent les géomètres, un peu chaud. La seule solution, en fait, c'est de décourager les gens à y aller, en disant la vérité. La Joconde, c'est tout petit et c'est pas si fou. La Vénus de Milo, c'est juste une femme qui peut pas se gratter le dos. Les momies, c'est moche, on dirait Mickey Rourke. Et la liberté qui dans le peuple, c'est une dame seins nus et un gavroche qui tient un flingue. Boobs et gun. C'est ça qu'on veut pour nos jeunes. Donc voilà, étrangers, n'y allez pas et laissez-nous, nous, Français, en profiter parce que c'est tout ce qui nous reste. Yeah.
Tanguy Passion, sur scène. Oui, le 25 février, il sera à Nancy, salle Poirel, et le lendemain, à Strasbourg. C'est ça, salle Poirel? Oui. Ok, parfait.
Léna Brébant met en scène et a adapté Peau d'homme, la bande dessinée devenue un spectacle musical, intelligent, drôle, émouvant, porté par Laure Calamy et toute une troupe. D'autres événements, oui. C'est au théâtre Montparnasse, ouais. D'autres événements, Leïla.
On va parler d'une pièce, justement, Hors la loi de Pauline Bureau, qui a été jouée à la Comédie Française. Une pièce qui va être adaptée au cinéma. Elle revient dans cette pièce et donc dans ce futur film sur le procès de Bobigny et sur le rôle décisif dans Nos vies à toutes de Gisèle Halimi, avec cette Marie-Claire, 16 ans, qui a avorté clandestinement et qui se retrouve sur le banc des prévenus, avec sa faiseuse d'ange. Qui, d'après vous, va incarner Gisèle Halimi au cinéma?
Ouh là là.
Je crois que je l'ai vu ce matin. Mm-hmm. Virginie Chirano.
Absolument. Mmh. Voilà l'information. Alors, est-ce qu'elle est encore complètement confirmée? Je ne sais pas. Mais j'ai
est-ce qu'elle est
même...
au courant?
J'ai vu la même information. J'ai vu la même info que vous, Léna, Virginie et Fira, pour entrer dans les pas de Gisèle Halimi et tout d'un coup incarner une telle icône, un tel rôle avec une telle portée sociétale. C'est quand même quelque chose à très fort.
Elle peut tout jouer, Virginie Fira.
Elle peut absolument tout jouer, j'imagine. Je ne remets pas du tout en cause ça, mais je me dis quand même, c'est encore autre chose. C'est, je ne sais pas si vous partagez
Si, évidemment. C'est une femme qu'on admire toutes et qui a tellement compté pour nous. Et, j'ai vu la pièce de Pauline Bureau.
Oui.
Français.
Moi aussi, oui.
Et, effectivement, c'est super qu'elle en fasse un film.
Vous arrivez à avoir des pièces sans les mettre en scène?
Moi, j'adore aller au théâtre.
Sans les analyser dans la mise en scène.
Et surtout quand c'est des moments de spectacle vivant, c'est-à-dire que tout d'un coup, quand je suis prise, c'est merveilleux. Moi, c'est ma passion.
Et à qui justement vous aimeriez donner la parole? Vous avez donné récemment la parole à Colette dans un musical qui était génial, au Tristan Bernard, avec une interprète
qui est toujours en tournée, qui est au Seigneur,
qui était vraiment un très 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 beau spectacle. À qui vous voulez encore donner la parole dans ces femmes-là qui comptent?
À tellement de gens, en fait, des femmes, des hommes. Enfin, il y a plein de gens qui ont compté pour moi et qui comptent encore. Je saurais pas là tout de suite.
Mais si votre vie devait être une œuvre, par exemple, ce serait laquelle? Enfin, ce serait quoi? Un personnage qui vous touche?
Une chanson plutôt.
Une chanson, ça pourrait être une chanson.
Barbara, je sais pas.
Ouais. Pourquoi elle?
Parce qu'elle écrit tellement bien.
Ça vous fascine?
Ouais, je suis fascinée par les gens qui arrivent à écrire les sentiments. Ouais.
Vous écrivez des chansons?
Non, j'écris des histoires et j'adorerais pouvoir écrire des chansons, mais pour ça, il faudrait que je me mette au piano, justement.
Ouais. Et vous, si vous deviez entrer dans les pas d'un personnage, est-ce que, je ne sais pas, il y a quelqu'un Laure qui...
Il y en a plein. J'adorerais Fréhel, mais j'adorerais... Non, Fréhel, je veux dire un truc. Ouais, Fréhel et Catherine chanteuse, de Médicis. C'est plus inattendu. Non, mais parce que je trouve que... Non, mais en fait, j'étais fascinée parce que alors il y a l'image de cette dame noire maléfique qui aurait fomenté
la reine Margot notamment
Et en fait j'avais entendu sur France Culture une émission de, je crois que c'était Jérémy Foy, mais je sais qu'il a écrit tout un livre sur elle où en fait c'est l'inverse. En fait, elle a vraiment tout fait pour réconcilier catholiques et protestants. Elle a même entrepris un voyage avec son fils pendant 2 ans en emmenant toute la cour dans toute la France pour essayer de montrer aussi les talents de son fils et tout ça, et d'essayer de réunir un peu les Français à l'époque. Et tout s'est retourné contre elle aussi parce que c'est une femme, et donc il y a un regard là-dessus faire évoluer, et je trouve que ce serait un truc passionnant à faire.
Une autre question, Leïla, pour Laure Calamy et Léna Brébant.
On parle d'un monde idéal, un monde où les femmes donnent leur nom aux rues, aux établissements scolaires, où les hommes restent à la maison, où le féminin l'emporte sur le masculin dans la grammaire. C'est un livre sorti à l'école des loisirs. Un livre pour jeunes gens qui serait bon de mettre entre de nombreuses mains, non pas pour établir la domination féminine, mais pour donner peut-être un autre exemple de ce que le monde pourrait être. Et c'est un livre que vous connaissez, Léna Brébant.
Tout à fait, ça s'appelle Renversante, de Florence Hinkel, que j'ai mis en scène, et qui sera d'ailleurs joué aux Têtes de la Concorde en mars.
C'est une pièce qui est absolument géniale, vous avez adaptée, à destination
des ados,
mais pas que. Mais moi, je l'ai vue. Ouais. Donc je suis plus une ado depuis un petit moment.
Pour faire rire et réfléchir en même temps.
Oui, exactement. Pour faire rire, exactement. Et puis pour faire ressentir. En fait, c'est en se mettant à la place de l'autre. C'est ça peut être sur tous les sujets qu'on se rend compte. Et là, du coup, le pitch est très drôle. C'est de nouveau, une autrice qui a écrit quelque chose de très drôle. Et du coup, je me suis emparée. J'ai fait mon truc à moi.
Avec des exemples précis, notamment, j'ai un souvenir des pubs liées à la voiture ou quand une femme caresse une voiture et qu'elle ressent une forme d'orgasme juste à caresser une carrosserie.
Je me suis fait un grand plaisir de filmer Antoine Prudhomme de la Boussinière en train de caresser suavement une belle voiture avec un maillot de bain rose.
C'est une pièce géniale pour déconstruire les clichés, et je trouve que c'est important, c'est un support. On parle souvent de cette question-là par rapport aux ados, comment est-ce qu'on entre dans ces discussions-là, et je trouve que c'est ce genre de pièces qui permettent ensuite d'ouvrir et de créer la discussion en classe.
Oui, parce qu'on se marre ensemble et du coup on peut parler. À partir du moment où on rigole ensemble, il y a un sujet, donc on se sent pas attaqué et ça permet la discussion.
Parlons des projets un tout petit peu. Oui. Tous les soirs, il y a déjà cet énorme travail au Théâtre Montparnasse, mais l'occasion de saluer le succès d'Un ours dans le Jura, dans lequel vous jouez, et vous êtes toujours à l'affiche, Laure Calamy, de ce film dirigé et écrit par Franck Dubosc. Formidable succès depuis début janvier.
Ah ouais, incroyable. Mérité, en plus. On est ravis. Ça a même passé le million, apparemment.
Bravo.
Non, toujours, c'est formidable.
Ouais. Toujours à l'affiche également, Mon Inséparable. Sophie Bailly, le rôle d'une maman qui s'occupe d'un jeune handicapé.
De son fils, qui est en situation de handicap. Mais c'est surtout en fait l'histoire d'une double émancipation en fait. Elle va redevenir, ils n'en peuvent plus d'eux-mêmes aussi, c'est de ça. Cette relation. Mmh. En fait, c'est assez universel. C'est aussi au-delà de le handicap sert un peu de, on va dire, de loupe à grossir les traits d'une relation parent-enfant qui peut être fusionnelle, étouffante.
Quand vous choisissez un rôle, c'est justement sur ce que ça porte comme réflexion, comme valeur, ou de se dire aussi qu'est-ce que j'ai déjà fait et que j'ai pas envie de refaire, et qu'est-ce que je n'ai jamais fait et qui m'attire.
C'est un peu tout ça. Après, il est vrai que j'avais déjà fait des mères, par exemple par rapport au film de Mon Inséparable, mais là, c'est aussi une rencontre parfois avec quelqu'un. Et là, c'était avec Anne-Sophie Bailly que j'ai trouvé extraordinaire, et j'ai senti que qu'on pouvait aller loin dans le jeu. Tout ça, j'avais envie de l'accompagner pour son premier long métrage que je trouve magnifique.
Laure Calamy, que vous retrouverez également à l'affiche de Classe moyenne d'Anthony Cordier avec Laurent Lafitte.
Complètement.
Et Élodie Bouchèze, et également dans C'est quoi l'amour de Fabien Gorjard avec Vincent Macaigne et Elias Salem.
Ouais.
Gorjard.
Non, oui.
Gorjard, c'est
Fabien,
Gorjard.
Ouais, c'est ça. Et quels sont vos projets, Léna? Vraiment, vous êtes en train de penser déjà à une adaptation, à une écriture ou à prendre des cours de piano?
Ma prochaine création, c'est Le mariage de Figaro, donc de Beaumarchais. Ça sera, on crée à la Scala à Avignon, puis ça sera repris à la Scala à Paris. Et c'est avec Philippe Torreton, Marie Vial, Grégoire Osterman, Gretel Delattre, Antoine Prudhomme. Bon, en tout cas, voilà tout un tas de gens que j'ai réunis pour faire ce projet. J'adapte pas, c'est Beaumarchais. Et c'est tellement d'actualité sur les rapports hommes-femmes, les rapports de domination sociale. C'est incroyable de le relire aujourd'hui. C'est fou d'ailleurs que des choses écrites il y a si longtemps soient tellement d'actualité.
La nature humaine.
C'est presque, c'est perturbant parce qu'on se dit.
C'est déconcertant de se dire ça évolue pas.
Ouais. Ça évolue lentement.
Lentement,
ouais.
Quoi. Ouais.
À propos d'évoluer lentement, Daniel Morin, des excuses.
C'était dur. Non, là, il fait la grève. Regarde. Non, vas-y, Daniel.
Merci, Aura. Désolé pour nos auditeurs qui étaient tranquillement en train de préparer leur déjeuner et qui, en écoutant l'émission, ont eu l'image d'Oldelaf en mini-jeu. Une image tellement dégueulasse de Nagui constipé juste avant d'accoucher. Oui, je comprends, vous n'avez plus faim, c'est normal. Désolé pour tous les étudiants en médecine mélomanes qui, en écoutant l'émission et l'anecdote de coaching vocal et sphincter, se sont écriés « Mais génial, on va faire ça, choriste proctologue !» Bonne idée, mais ça n'existe pas. Je suis d'accord, c'est dommage. Désolé pour tous les metteurs en scène qui nous écoutent et qui pensent que la préparation physique de l'acteur, la mise en situation physiologique, ne servent à rien. Eh bien non. Léna Bréban le fait et elle tire le meilleur de ses comédiens. Elle leur demande par exemple d'attraper la gale pour une pièce, le scorbut pour une comédie musicale, la lèpre pour un seul en scène et bien d'autres. Alors, ça coûte cher la sécu, mais bon Dieu, ce que c'est efficace. Désolé enfin pour tous ceux qui ont trouvé que nos invités n'avaient pas été très clairs dans la promo de leur pièce Podom. Alors non, Léna Bréban a été très très claire. Laure Calamy, un peu moins, je sais pas, on réécoute l'or. Je comprends ce que vous voulez dire. Et ça va pas s'arranger demain, puisqu'on reçoit Samuel Labarthe et Virginie Hoc, qui, tout le monde le sait, ont bien besoin d'un orthophoniste.
Au Théâtre Montparnasse, Podom, une réussite signée Léna Bréban et portée par Laure Calamy et toute une troupe. Merci mille fois d'être venu et bravo encore.
Merci à vous.